dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Nous sommes le vendredi 16 août 2024, il est 19h05 en temps universel. Bonsoir et bienvenue à l'écoute d'une nouvelle édition de l'Amérique et vous. Au micro, Jacques Aristide, en direct du studio 9 de la VOA à Washington. De l'autre côté de la vitre, Michel Joseph pour la mise en onde. Ce soir, les défis de l'immigration aux États-Unis à moins de 3 mois de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre. L'immigration irrégulière s'impose encore une fois comme un des sujets au cœur de la campagne électorale. D'un côté, le candidat républicain Donald Trump, avec ses promesses de déportation massive, se positionne en défenseur intransigeant de la sécurité des frontières. De l'autre, sa rivale démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, ancienne procureure générale de Californie, met en avant son expérience de terrain pour proposer une réforme globale du système d'immigration. Pourquoi ce débat continue-t-il de diviser profondément les électeurs américains? Comment l'actuelle crise migratoire en Amérique est-elle vue de l'étranger? Analyse et commentaires à venir. Trois invités avec nous ce soir, Dr Sona Konaté, activiste d'origine guinéenne, médecin épidémiologiste, chef de programme au département de la santé du comté de Prince George dans l'état américain du Maryland, d'où elle nous rejoint au téléphone. Bonsoir Dr Konaté.
Bonsoir Jacques Aristide, bonsoir auditeurs.
Via WhatsApp depuis Paris, Sadio Morel-Canté, chercheuse associée à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. En tant que journaliste, elle a notamment travaillé pour la BBC, de même que pour les agences de presse Reuters et AP. Bonsoir Sadio. Eh bien, nous allons la retrouver dans quelques petits instants. Et en ligne de la République démocratique du Congo, Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir cher Jacques, bonsoir à tous les co-débatteurs et co-débattrices et auditeurs de la VOA.
Merci. Alors, sous l'administration Biden-Harris, les États-Unis ont vu arriver des nombres massifs de migrants avant des restrictions drastiques imposées en juin dernier, rapporte l'AFP, l'agence France-Presse. Sona Konaté, je commence par vous. L'Amérique est-elle effectivement confrontée à une crise migratoire d'une ampleur inédite telle qu'elle a été décrite? Que signifie-t-elle pour le scrutin de novembre, notamment en termes de mobilisation des électeurs et de polarisation du débat politique autour des questions d'immigration et de sécurité nationale?
Bonsoir tout le monde, bonsoir Jacques Aristide. Voilà, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique ont toujours été confrontés à des problèmes d'immigration. Par exemple, c'était avant l'immigration illégale des États voisins comme le Mexique, le Guatemala, l'Honduras. Mais ce qui est différent cette fois-ci, qui a pris une tournure plus ample, c'est que l'immigration a pris un contour plutôt global. Il y a beaucoup d'immigrants d'autres pays très très lointain maintenant, qui font partie maintenant de la danse. Donc, par exemple, récemment, nous avons vu l'immigration venant du Venezuela et beaucoup de pays qui passaient aussi par cette frontière qui était considérée un peu poreuse parce que, à cause des problèmes inhérents au Venezuela, la frontière était plutôt ouverte et donc beaucoup ont profité pour venir, ce qui est palpable dans nos communautés et ce qui maintenant continue d'occasionner une très très grande attention et appréhension des populations locales américaines, surtout en ces moments de tension politique, de très très grande polarisation.
Oui, en tant qu'immigré vous-même dans ce pays, Sona Konaté, pouvez-vous très brièvement nous raconter votre parcours?
Absolument. Donc moi, je suis venue ici avec ma famille en 2005 avec l'intention d'y séjourner, d'y étudier. Et donc nous avons eu la chance de très très tôt aborder nos problèmes d'immigration de manière légale et suivant le cursus normal dans les règles de l'art. Mais je vis dans une communauté ici de la diaspora où je suis très très active en tant que membre de la communauté et où je côtoie tous les jours beaucoup d'immigrants qui ont des problèmes, confrontent des problèmes depuis des années parce qu'ils sont là depuis longtemps, ils n'ont rien engagé et rentrant dans l'illégalité, ça devient beaucoup, beaucoup plus difficile de devenir un citoyen productif de la communauté. Donc, nous organisons beaucoup d'activités, beaucoup de cliniques légales pour pouvoir les aider à sortir de ce problème-là, mais c'est pas du tout facile, c'est très très complexe.
Oui. Sadio Morel Kanté, comment les positions de Donald Trump et de Kamala Harris sur l'immigration sont-elles perçues en Europe, notamment par rapport aux débats similaires qui ont eu lieu lors des élections européennes récentes, mais aussi et surtout des législatives anticipées en juin et juillet dernier en France, où vous vous trouvez?
Oui, mais c'est perçu ici comme un classique inhérent aux élections électorales, hein. Dès qu'il y a élection, le débat sur la migration s'invite en politique, comme si c'est déterminant que les candidats se positionnent pour que comme si c'était déterminant pour le résultat des élections. Alors que non, parce qu'on a vu que lorsque le candidat est le plus virulent sur la question migratoire, c'est celui qui fera moins contre les migrants. Au contraire, on a vu souvent beaucoup de régularisations pendant que le candidat le plus virulent est arrivé au commandes. Hein. Donc ici, nous avons, oui, il y a quelques semaines seulement, affronté la question où le plus raciste s'exprimait le plus fort, alors que dans les faits, oui, on va pas voir qu'il y aura plus de charters et on ne voit par exemple pas que la France est le pays qui accueille le plus de migrants. Parce qu'en Europe, par exemple, si on vous parle des chiffres, la France n'accueille que 10% des migrants contre 44% pour l'Allemagne et 20% pour l'Angleterre. Mais en France, le débat est très houleux à l'approche des élections, comme tout d'ailleurs aux États-Unis.
Oui. Frédéric Amani, comment la crise migratoire ici aux États-Unis est-elle perçue en Afrique, l'une des régions de la planète d'où sont originaires les réfugiés, migrants économiques et autres demandeurs d'asile qui ont traversé ou qui tentent de traverser la frontière américano-mexicaine?
Bien, cette crise est perçue ici en Afrique comme un des enjeux de cette campagne entre des candidats pour davantage gagner leur électorat. Mais je pense que cette crise aussi s'invite comme une interpellation et à la classe dirigeante africaine, mais aussi à la jeunesse et au mouvement des sociétés civiles d'exiger plus davantage à leurs dirigeants parce que cette crise migratoire est, n'est-ce pas, si vous voulez bien, la résultante de la mauvaise gouvernance, des crises, des violences dans certains pays africains où la jeunesse pense trouver salut aux États-Unis comme un Eldorado. Et alors l'Afrique considère cela comme un enjeu dans cette campagne, mais aussi une interpellation et à la jeunesse de prendre, n'est-ce pas, leur destin en main en travaillant au niveau interne, c'est-à-dire de ne pas s'hasarder à aller mourir peut-être dans les océans, dans la mer, mais de souhaiter, n'est-ce pas, travailler au niveau interne. Voilà comment on peut analyser cette crise, mais qui, à mon avis, cette crise migratoire aussi semble être un couteau à double tranchant entre les deux candidats, où l'un semble l'utiliser pour gagner l'électorat, mais ça risque de se retourner contre lui, malheureusement. J'ai fait allusion ici au président, à l'ancien président Donald Trump. Malheureusement, ses discours incendiaires risquent de se retourner contre lui, malheureusement.
Oui, en même temps, Donald Trump, vous direz que son parti et lui-même cherchent à avoir des frontières sécurisées. Alors, pour Kamala Harris, Donald Trump ne veut pas résoudre ce problème. Il parle beaucoup de sécurité à la frontière, mais il ne passe pas à l'acte, a déclaré la démocrate vendredi de la semaine dernière lors d'un meeting en Arizona, état clé frontalier du Mexique. Nous savons que notre système d'immigration est défaillant et nous savons ce qu'il faut faire pour le réparer. Une réforme complète. Cela inclut une sécurité forte à la frontière et une voie méritée vers la citoyenneté, a ajouté Mme Harris, qui a également condamné, selon elle, le double jeu de son rival républicain en rappelant que Donald Trump a ordonné aux élus républicains du Congrès de ne pas voter un projet de loi sur le sujet il y a quelques mois. Sonia Konaté, la candidate Kamala Harris, est toutefois très critiquée par beaucoup d'Américains sur le bilan de l'actuelle administration concernant l'immigration irrégulière. D'ailleurs, d'après de récents sondages, les électeurs préfèrent Donald Trump sur l'immigration, de même que sur l'économie, les deux grands thèmes de la campagne. Le président Biden avait confié à sa vice-présidente ce dossier brûlant de l'afflux de migrants illégaux dès le début de son mandat, soit en mars 2021. Est-ce finalement une véritable patate chaude pour Kamala Harris?
Merci, Zacharistide. Donc là, je veux vous parler en tant que citoyenne binationale américaine et guinéenne, mais là, comme je vis sur le territoire américain, la perception générale est que l'immigration a été un désastre, et oui, c'est une patate bouillante dans les mains de Kamala Harris. Comme l'a dit ma co-speaker de France, c'est vraiment ça. Quand il y a des élections, le problème de migration vient toujours. Les gens se plaignent que les immigrants viennent prendre leur boulot, leurs choses, mais là, ça dépasse un peu plus les bornes. Par exemple, le Washington Post nous dit qu'entre 2020 et 2014, il y a eu, par exemple, il y avait 19% de demandeurs d'asile extra-continentaux, comme on les appelle, qui ne sont pas des pays frontaliers directement des États-Unis. Et en 2014, c'est monté à 53%. Je parle des demandes d'asile. Ça veut dire que l'immigration est palpable. Vous allez à New York, à Chicago, les grandes villes, vous voyez les immigrants dans les écoles. Ils occupent les gymnases. Donc la population les voit. Vous allez dans un salon de coiffure, vous voyez les immigrants. Avant, on ne les voyait pas, c'est des immigrants. Ils allaient dans les champs de patates, dans les champs de maïs, en Arizona, dans la Californie. On ne les voyait pas. Là, on les voit, ils occupent les écoles et on les accuse de prendre les services communautaires. Donc, la population les voit, les côtoie. Et donc, ça fait un problème. Et donc, Kamala Harris est confrontée à un très grand problème. Et aussi, Jacques Aristide, on lui avait donné le mandat de s'occuper de ce problème-là. Donc, on l'appelle même la tsar de l'immigration ici. Tsar, en fait, c'est un peu péjoratif, mais qui n'a rien fait. Et en tant que citoyenne ici américaine, on était un peu sur notre faim. Quand j'ai voté pour les primaires, je dois être honnête, j'ai vraiment voté en tant que... j'ai mis un point d'interrogation. On m'a demandé si j'allais voter pour Biden ou pour Trump. En novembre, c'était encore Biden le candidat, j'ai mis, je ne sais pas, indécidé, pas décidé, voilà. C'est pour vous dire que, et beaucoup, beaucoup, beaucoup étaient dans mon état d'esprit. Donc Kamala, si elle veut être élue, elle aura beaucoup à dire aux populations américaines. Et moi aussi, en tant que citoyenne, j'aimerais bien entendre sa position sur l'immigration, parce que c'est le sentiment global, le sentiment local que je manifeste ici.
D'accord. Et pour vous, à l'heure actuelle, Sonia Konaté, ce n'est pas clair le projet de Kamala Harris en ce qui concerne l'immigration illégale, en ce qui concerne la sécurisation des frontières américaines.
Très flou, je dirais. Très, très, très flou. Et moi, en tant que citoyenne aussi, je demande, j'exige des explications. J'aimerais savoir son projet de loi, son projet, sa stratégie, sa route, sa feuille de route sur ce sujet-là.
Sadio Morel-Kanté, quel parallèle peut-on établir entre la gestion de la crise migratoire aux États-Unis et celle en Europe, en particulier à la lumière des politiques restrictives mises en place après les vagues migratoires de 2015-2016? L'Amérique pourrait-elle tirer des leçons des expériences européennes ou inverser les rôles?
Oui, mais ici, c'est qu'on parle plus qu'on agit. Effectivement, on a vu par exemple pour l'Italie, le parti qui a été le plus virulent contre l'immigration, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont régularisé 400 000 migrants. 450 000 migrants, cela frôlait les 500 000. Donc il n'y a pas moins d'irrégularisation, il y a une campagne contre l'immigration pour plaire à l'électorat. Une fois que cet électorat a voté pour ce candidat, il se passe comme un piste qui déçoit les électeurs. Et aux prochaines élections, on remet encore sur la table la même problématique pour n'arriver pas à un résultat réel. Parce que tant qu'il y a des routes, il y a plusieurs routes hein, entre l'Afrique et l'Europe, il y a plusieurs routes entre l'Afrique en passant par l'Europe de l'Ouest pour arriver pour certains jusqu'à l'Europe de l'Est qui aussi emmagasine, reçoit beaucoup de migrants. L'Angleterre, par exemple, n'arrive plus à contrôler les frontières où la France n'arrive pas à ne pas faire passer les migrants à partir de la Manche qui arrivent toujours à trouver des voies et moyens et qui sont secourus soit par les bateaux français des associations ou les bateaux anglais qui les achemine jusqu'en Angleterre. Et de plus en plus, on voit des mineurs à qui il est impossible d'accorder le droit d'asile. Donc, mais en même temps, à qui ne pleuraient pas ces mêmes migrantes qui viennent de l'Afrique ou du Moyen-Orient? Parce que nous avons une population ici vieillissante. La jeunesse est le pourcentage de la jeunesse est moins élevé que le pourcentage des personnes âgées. Donc il y a un problème de main-d'œuvre qui se pose. Tout le monde est obligé de faire avec les migrants qui viennent combler la main-d'œuvre. Et il y a aussi des métiers que les allogènes n'aimeraient pas faire, qui sont tenus par les migrants. Donc n'importe comment, on compose avec eux. Donc ce discours, il reste juste un discours politique, pas un discours effectif. Tellement les histoires de ce continent, de ces deux continents, sont liées et proches, et que l'un, on peut le dire, ne peut pas exister sans l'autre, tant socialement, économiquement, culturellement, que le discours reste un discours politique. Il n'y a pas de matérialité, en fait, dans la question de la gestion d'immigration.
Frédéric Amani, comment les politiques de dissuasion américaines en matière d'immigration illégale sont-elles vues en Afrique, particulièrement dans les pays d'origine des migrants comme le Sénégal, la Guinée ou la Mauritanie? Parviennent-elles à décourager les flux migratoires actuels?
Bien, je crois que ces politiques sont vues comme un obstacle à cette jeunesse qui cherche meilleure vie ailleurs et qui pense que les États-Unis, le Canada sont un Eldorado pour eux. Et je pense que cela devrait, comme je l'ai dit, interpeller davantage cette jeunesse qui pense trouver le salut ailleurs au lieu de travailler dans leurs États, mais aussi les dirigeants africains qui devraient être interpellés par ces politiques de restriction pour donner le meilleur d'eux-mêmes à leur jeunesse, à leur population, pour ne pas aller. Parce que cela constitue encore une fuite de cerveau et une fuite de la main-d'œuvre, alors que l'Afrique aussi en a besoin pour son progrès, pour son développement. Voilà comment et aussi un manque, parce que cette diaspora américaine d'origine africaine, n'est-ce pas, contribue d'une manière ou d'une autre à l'économie de leurs États au travers, n'est-ce pas, l'envoi des fonds. Et voilà pourquoi la jeunesse africaine ou l'Afrique de manière générale pense que ces politiques de restriction seraient un obstacle pour leur progrès ou leur développement ou leur bonne vie meilleure.
Et voilà, chers invités, restez avec nous. Vous êtes à l'écoute de l'Amérique et vous, une émission que vous propose VOA Afrique chaque vendredi à partir de 19h05 en temps universel.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Vous écoutez l'Amérique et vous, un programme de VOA Afrique. Mille fois merci de votre fidélité. Jacques Aristide avec vous. Ce soir, avec nos invités, nous décortiquons la gestion de la crise des migrants aux États-Unis alors que se profile le scrutin présidentiel de novembre. Je vous propose maintenant deux commentaires tirés de la page Facebook de VOA Afrique. Alphonse Mbouaki de Kinshasa en RD Congo. L'Amérique est un pays de rêve, d'où il faut traiter cette question d'une façon humaine, au lieu parfois de séparer les enfants de leurs parents. Il y a des gens qui vivent depuis beaucoup d'années sans obtenir la régularisation. Je pense qu'il faut résoudre ce problème au cas par cas et procéder à la régularisation massive pour ceux qui remplissent les normes. Pour ce qui est des migrants qui affluent au sud de l'Amérique, dans le Texas, on pourrait les rapatrier par des vols charters, surtout ceux qui sont déjà à New York. Quand on accepte tout le monde, le danger réside dans le fait d'accueillir des terroristes ou des bandits. Commentaire d'Alphonse Mbouaki. Salomon Mogundou, également de la capitale congolaise. Les migrants viennent davantage de l'Amérique du Sud, notamment du Mexique et du Venezuela, et non principalement de l'Afrique. Et voilà pour ces commentaires. Et nous retrouvons nos trois invités. Docteur Sona Konaté, activiste d'origine guinéenne, médecin épidémiologiste, chef de programme au département de la santé du comté de Prince-George, dans l'état du Maryland. Depuis Paris, Sadio Morel Kanté, journaliste et chercheuse associée à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Et de la RD Congo, Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Le débat sur l'immigration divise profondément l'opinion publique américaine, nous l'avons entendu, depuis des décennies d'ailleurs, et revient sur le tapis à chaque élection. Le 4 juin dernier, le président Joe Biden a paraphé un décret permettant de fermer ponctuellement la frontière avec le Mexique aux demandeurs d'asile en cas d'afflux trop élevé. Une mesure fustigée, tant à gauche qu'à droite, l'une accusant l'accusant d'emprunter la ligne extrêmement dure du républicain Donald Trump, et l'autre qualifiant la restriction de complètement boiteuse. Sona Konaté, faut-il s'attendre à ce que ce sujet soit abordé lors de la convention démocrate la semaine prochaine? Les différents courants du parti vont-ils en profiter pour afficher leurs divergences sur la question?
Absolument, Jacques Aristide. Ce sera vraiment au cœur, un des topics au cœur du débat. Et oui, absolument. Je crois que c'est quelque chose que la VP Harris devrait préparer et commencer à exposer au public, vu qu'elle est en campagne en ce moment, un peu dans tous les États-Unis. Et donc, c'est quelque chose qui ne sera pas évitable du tout. Et comme l'a dit Madame Morel, en temps d'élection, dans n'importe quelle partie du globe, l'immigration est toujours un problème et donc toujours bien comme arme politique, bien sûr. Et donc, il faudra qu'elle, si elle veut avoir des chances d'être élue en tant que présidente des États-Unis, il faudra qu'elle aborde ce sujet-là. Et il y a beaucoup de courants démocrates, beaucoup de gens sont divisés sur la question, mais les Américains attendent quelque chose, ils attendent des explications. Et donc, je crois que si elle a le courage de le faire, comme elle l'a déjà annoncé dans quelques-uns de ses... rallies, voilà, de ces débats politiques, elle a déjà annoncé des couleurs. Aussi, un autre problème aussi est la guerre dans le Moyen-Orient. Voilà. Et donc, il faudrait qu'elle aborde ça. L'immigration, la guerre en Palestine, ça, ce sont des sujets bouillants. Et si elle a le courage de les aborder de manière satisfaisante, elle pourra avoir des chances d'être élue comme première présidente des États-Unis.
Et je signale que cette convention du Parti démocrate a lieu à partir de ce lundi 19 août et ce jusqu'au jeudi 22 août. Sadio Morel Kanté, vraiment très rapidement, le temps file. Pour un pays qui veut renforcer le contrôle à ses frontières et juguler l'afflux migratoire, est-il possible de relever les défis de l'immigration illégale avec humanité, brièvement? Non, malheureusement, nous n'entendons pas Sadio. Frédéric Amani également.
Il serait judicieux de combattre l'ennemi mondial commun, qui est la question climatique, plus facilement que de chercher à contrôler l'immigration. Parce que beaucoup d'argent a été injecté dans les pays cibles pour retenir l'immigration, mais malheureusement, les problèmes, les déstabilisations politiques font que ce sont les pays qui rejettent le plus l'Occident, dont les ressortissants sont le plus à la frontière ou sur les territoires occidentaux ici. Et c'est compliqué d'humaniser plus que ça l'immigration. Mais ceux qui auront la chance, c'est ceux qui seront sur le territoire, n'importe comment, que ce soit dans 5 ans, 10 ans, ils auront la chance d'être régularisés. Donc, en comptant sur ça, il est difficile de réduire le taux actuel de l'immigration.
Et voilà, malheureusement, le temps file. C'est un débat certainement sur lequel nous allons revenir. Et voilà, c'est tout pour l'Amérique et vous, édition du vendredi 16 août 2024. Merci à nos invités, Sona Konaté, Sadio Morel Kanté et Frédéric Amani. Michel Joseph a assuré la mise en onde. Nouveau rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit. Jacques Aristide du Studio 9 à Washington. Je vous souhaite une très belle soirée, merveilleuse week-end. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. Je vous dis à très bientôt sur les ondes de la VOA. Et s'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Nos programmes se poursuivent sur VOA Afrique et voafrique.com. Take care.